À la une en Israël, ce matin, il va être question du sommet arabe sur la reconstruction de Gaza, ainsi que on va parler du rapport du Shin Bet sur les événements du 7 octobre, les massacres du 7 octobre. Lise, vous en parlez avec notre invité, Daniel Haïk, journaliste et analyste politique sur I24 News.
Daniel Haïk, bonjour.
Bonjour Lise, Boker Tov.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, ce fameux sommet arabe sur la reconstruction de Gaza, il s'est conclu hier par une proposition de reconstruction de la bande palestinienne en face de la proposition de Donald Trump. Israël a officiellement rejeté ce plan et les États-Unis également. Les réactions dans le monde arabe sont plutôt positives. Ça va servir à quelque chose, Daniel, ce plan égyptien ?
Écoutez, ça peut fâcher Donald Trump et il est intéressant de voir la réaction des Américains ce matin et la réaction des Américains, elle est plutôt critique envers le plan de Assisi et c'est intéressant de voir sur quel point se focalisent, on va dire, les Américains. C'est surtout le fait que on considère que ce plan n'est pas réaliste puisque la bande de Gaza pour l'administration Trump est actuellement totalement inhabitable et donc il n'est pas question d'envisager un plan de reconstruction de la bande de Gaza comme l'est le plan de Abdel Fattah Hassisi avec la présence des Palestiniens sur place. Je rappelle que ce plan-là, en tout cas les points les plus importants, parle de reconstruction de la bande de Gaza, parle d'installation, de retour de l'autorité palestinienne comme, on va dire, élément de contrôle sur la bande de Gaza, et puis aussi la présence de l'UNRWA comme paramètre aussi d'élément de reconstruction. Tout cela, bien entendu, ne peut pas plaire à Israël, et ça ne plaît pas aussi, et surtout aux Américains. Les Américains ne se plient pas. On voit que les Américains veulent absolument maintenir le plan Trump, et après ce sommet-là, il risque d'y avoir des tensions entre Donald Trump et le monde arabe, même y compris une partie du monde arabe modéré qui a validé, on va dire, au Caire le plan de Abdel Fattah Hassisi.
Alors, c'est vrai que dans le contexte actuel, Daniel, les négociations, puisque l'Égypte est aussi un des principaux médiateurs, les négociations sont au point mort et finalement, on se retrouve avec les mêmes ennemis et les mêmes amis, si j'ose dire. Les Émirats Arabes Unis qui considèrent que le Hamas doit être désarmé, l'Arabie Saoudite qui dit la même chose et de l'autre côté, les autres, à commencer par le Qatar, qui trouve que le plan égyptien est très bien.
Oui, effectivement. Je dirais que s'il y a un seul point commun, on va dire, entre Israël et l'Égypte autour du plan de Abdel Fattah Hassisi, c'est que tous les deux souhaitent le départ du Hamas, c'est-à-dire que le Hamas ne puisse pas contrôler la bande de Gaza. Et c'est peut-être le seul point, on va dire, le seul point commun ou la seule lueur d'espoir ou le seul rayon de soleil de ce plan de Abdel Fattah Hassisi. Il semble acquis aujourd'hui que même dans le monde arabe, eh bien le Hamas ne peut pas rester une quelconque alternative, ne peut pas rester au pouvoir dans la bande de Gaza, ne peut pas être considéré comme le gérant de la bande de Gaza au lendemain de la guerre. Et ça, c'est quand même tout de même un point important parce que ça peut servir de base de discussion, on va dire, par la suite entre les Américains, les Émiratis, par exemple, l'Arabie Saoudite, surtout si va de l'avant dans les négociations en vue d'une sorte de normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, eh bien, ça peut être important, ça peut servir de point de départ à un règlement, à une solution de l'après-Gaza, de l'après-guerre. Et donc, à partir du moment où aujourd'hui, tout le monde, les Américains, les Israéliens, bien entendu, mais aussi une partie du monde arabo-musulman, les Égyptiens, même les Émiratis, comprennent que le Hamas ne peut plus rester au pouvoir dans la bande de Gaza. Il y a donc un consensus à ce niveau. Ça peut permettre, on va dire, d'avancer des négociations sur une sorte de règlement général au Proche-Orient, un règlement qui inclurait donc, par exemple, la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite.
Alors, l'autre point aujourd'hui qui fait la une en Israël, c'est ce rapport du chef du Shin Bet, son enquête sur le 7 octobre, qui a été critiqué violemment par l'entourage de Benjamin Netanyahou. Daniel Haïk, qu'en pensez? Est-ce que c'est politique, ces critiques?
Écoutez, les tensions qui existent entre Ronen Bar et Benjamin Netanyahou ne datent pas d'hier. Elles se sont effectivement intensifiées au cours des dernières semaines et depuis que Ronen Bar a été évincé par Benjamin Netanyahou de la gestion de l'accord avec le Hamas sur la mise en application, la libération des otages et la mise en application de la première phase et de la seconde phase, qui pour l'instant, vous le savez, est gelée. Il y a effectivement eu des tensions et ces tensions, elles se sont accentuées autour donc de la rédaction et de la publication de ce rapport, parce que le rapport du Shin Bet, c'est un rapport interne, hein, il faut bien le rappeler. Tous les rapports dont on a parlé ces derniers jours, les rapports de Tsahal et le rapport du Shin Bet sont des rapports internes qui ont été réalisés par des cadres, on va dire, du Shin Bet. Et bien, ils sont suspects, on va dire. Certains diront s'il y a soupçon, alors la meilleure solution à apporter, c'est la création d'une commission d'enquête. C'est ce que dit, par exemple, Ronen Bar. Il dit qu'il faudra compléter ces rapports par la formation d'une commission d'enquête indépendante. Mais effectivement, il y a des tensions entre Benjamin Netanyahu et Ronen Bar, et ça se reflète très nettement dans les termes utilisés par le Shin Bet dans les conclusions de ce rapport. C'est-à-dire que on voit que le Shin Bet endosse bien entendu une partie de la responsabilité. Il confirme que il n'était pas préparé, qu'il n'a pas pris les mesures, il n'a pas jugé à sa juste mesure l'importance de l'armement du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza, qu'il ne disposait pas des moyens de renseignements suffisants pour savoir ce qui se passait à l'intérieur de la bande de Gaza, mais il rejette aussi la responsabilité, partie de la responsabilité sur l'échelon politique, en particulier autour de ce fameux dossier des valises de dollars qui ont été introduites dans la bande de Gaza entre 2018 et le 7 octobre. Ces valises, pour Ronen Bar, bien c'est une des causes de renforcement du Hamas. C'est intéressant d'ailleurs de rappeler que en 2018, lorsqu'il a été question la première fois de ces valises, c'est-à-dire on parlait de 30 millions de dollars mensuels qui étaient acheminés par le Qatar à l'intérieur de la bande de Gaza. On se souvient avec ce médiateur, Mohamed El Abadi, qui passait chaque mois avec ces valises. Eh bien, au départ, les forces de sécurité israéliennes, ce sont elles qui avaient poussé le gouvernement à accepter le principe de l'acheminement de ces sommes pour calmer, on va dire, la population, pour introduire un peu plus, c'est-à-dire à l'origine, j'ai revu cela dans les textes, c'est-à-dire on parlait d'aide humanitaire, hein, à la population gazaoui pour essayer de faire baisser la pression, parce qu'il y avait une pression au sein de la population palestinienne. On était tout de suite après un autre round de confrontation entre le Hamas et dans le cas précis c'était le djihad islamique et l'État d'Israël, et on disait que le Hamas, eh bien, en dehors du fait qu'il était dissuadé, on disait que le Hamas veut maintenir le calme et que donc cette aide économique, eh bien, lui permettrait de maintenir le calme. C'était de ça dont on parlait à l'époque. C'est important de s'en souvenir. Ce n'est pas seulement l'échelon politique qui a une responsabilité à ce niveau-là, mais également l'échelon militaire qui a non seulement cautionné la politique de l'échelon politique, de l'échelon politique, mais également qui a demandé à ce que ce transfert économique, ce transfert de fonds du Qatar vers la bande de Gaza soit concrétisé le plus rapidement possible.
Très rapidement, Daniel, le Shin Bet reconnaît des erreurs, mais insiste surtout que Israël tout entier n'a pas su réagir adéquatement à l'ampleur de cette attaque. Vous êtes d'accord avec cette vision ?
Ben oui, écoutez, c'est-à-dire, quand on revient sur le fond, et les rapports de Tsahal aussi le précisent, les rapports que l'on a vus qui ont été publiés ces derniers jours, le précisent, personne n'a tenu compte d'un plan qui était dans les tiroirs de tous les chefs des services de renseignement militaire et civil, et renseignement intérieur, le Shin Bet. Tout le monde connaissait ce plan de Sinoir depuis dans le meilleur des cas depuis 2017, mais pour ceux qui étaient beaucoup plus au fait de l'actualité, bien c'était depuis 2014, depuis que Sinoir était devenu le maître de la bande de Gaza. Il l'avait très clairement détaillé, ce plan. Il était en trois phases et c'est exactement ce qui s'est passé. Et on va dire que de ce point de vue-là, tout le monde a pêché. L'échelon politique a pêché. Et je dirais que l'échelon politique a pêché de manière différente de l'échelon militaire ou l'échelon sécuritaire. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, lui, voulait maintenir le Hamas à petit feu pour poursuivre la division au sein du mouvement palestinien et éviter toute négociation autour de la création d'un État palestinien. C'était ça la motivation prioritaire de Benjamin Netanyahou. L'autre motivation, celle de l'échelon militaire et sécuritaire, c'était de dire le Hamas est dissuadé, a été dissuadé à force de rangs de confrontation, et en particulier des derniers rangs de confrontation, ont totalement poussé le Hamas à abandonner l'idée de combattre Israël. C'était ça le fameux concept erroné. Et là, bien entendu, personne n'était dans une disposition d'esprit que 2 ou 3 000, voire plus, même terroristes puissent rentrer à l'intérieur du territoire israélien, capturer des otages, combattre comme ils ont combattu, et revenir à l'intérieur de la bande de Gaza.
Merci beaucoup, Daniel Haïk, d'avoir été avec nous, journaliste, analyste politique sur i24 News. Bonne journée à vous, à très vite.
À bientôt, Olivier.